Dialogue entre Congolais avec Alain Ronde à la présentation.
Bonsoir, province du Bandundu. Les populations du territoire d'Oshwe lancent un cri d'alarme au gouvernement central. Elles lui demandent de les délivrer des permis d'exploitation forestière aux industriels que s'ils ont signés et respecter les cahiers de charges avec les populations locales. Comment analyser cette demande de la population d'Oshwe et comment les populations paysannes à travers le pays peuvent-elles bénéficier des retombées de l'exploitation forestière? Trois invités participent à cette émission et ils sont tous en ligne. Gabriel Mola Motia, président de la Fédération des industriels du bois. Bonsoir, monsieur Mola.
Bonsoir.
René Ngongo, conseiller Forêt Afrique et représentant légal de Greenpeace en RDC. Bonsoir, monsieur Ngongo.
Bonsoir.
Ingénieur José Ilanga, directeur coordonnateur des études et planification au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Bonsoir, monsieur Ilanga.
Bonsoir.
Vous êtes très nombreux à nous avoir envoyé vos réactions. Dieu bénit Ilunga de Mbandaka à l'Équateur. La faute revient au gouvernement qui apparemment semble négliger son arbitrage, car s'il gagne sa part, il laisse les industriels exploiter la forêt selon leur gré et oublie la part des populations locales qui très souvent ne vivent que de leurs activités paysannes et de leurs forêts. Honorable Odiane et Paulin de la province orientale, la RDC a d'énormes potentialités forestières, mais sa population meurt pauvre à cause de la corruption de ses dirigeants et de l'égocentrisme. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Les populations du territoire d'Oshwe dans la province du Bandundu lancent un SOS en direction du gouvernement central pour l'exploitation irrégulière de leurs forêts. Elles demandent au gouvernement de ne délivrer des permis d'exploitation aux industriels que s'ils ont signé et respecté les cahiers de charges avec les populations locales. Ceci est le principal résultat d'un forum organisé toute la semaine dernière à Oshwe par Greenpeace sur l'avenir des forêts de ce territoire. On écoute ce reportage de José Deschartes Menga qui revenait d'Oshwe.
Une soixantaine de délégués venus de tous les quatre secteurs du territoire d'Oshwe ont pris part à ce forum. Parmi eux, des pygmées et des femmes. À l'issue de trois jours de réflexion, ils ont constaté que leur milieu s'enfonce davantage dans la pauvreté malgré l'exploitation de leurs forêts par des industriels. Pas de route, pas d'eau, pas d'électricité, des écoles peu viables et une population qui vit dans des conditions infrahumaines, la pauvreté est très palpable à Oshwe. Les exploitants forestiers n'accomplissent pas les promesses faites aux paysans. En plus, les sociétés convertibles continuent à couper les bois alors que leurs titres ne sont pas encore convertis. De ce fait, les paysans appellent le gouvernement à arrêter ce pillage des ressources qui contraste avec les dispositions du code forestier. Karine Jacquemar de Greenpeace résume les inquiétudes des paysans d'Oshwe.
Les populations expriment leur préoccupation de niveau de pauvreté. Inquiétude aussi parce que par rapport à l'exploitation industrielle du bois, les exploitants forestiers dans la région ne comprennent pas forcément quelles sont les règles du jeu et ils sont face à des exploitants qui leur ont fait des promesses d'apporter du développement, des promesses sur lesquelles ils sont extrêmement déçus. Ils ont l'impression qu'on coupe leur forêt mais sont tirés leur épingle du jeu et toujours en restant dans le même niveau de pauvreté.
Le conseiller juridique du ministre de l'Environnement, Michel Bouteau, qui a pris part à ce forum, a promis de transmettre le cri de détresse du paysan à son ministre.
Merci José Deschartes-Menga. Gabriel Mola Motia, président de la Fédération des industriels du bois, vous venez de suivre ce reportage ainsi que la demande de la population d'Oshwe. Comment vous analysez cette demande?
Ok, merci beaucoup. Je crois qu'il y a lieu de faire la part des choses. Généralement, les gens veulent se livrer au sensationnel, c'est-à-dire, voilà, il n'y a rien qui est fait, les populations de haut, encore faut-il savoir que ces gens qui ont parlé, ils représentent quelle proportion de la population de Oshwe. Et puis, quand on parle de Oshwe, eh bien, l'exploitation forestière industrielle, il y a combien de sociétés qui sont là qui exploitent le bois? À ma connaissance, je crois que les membres de la FID à Oshwe, il y a, si je n'exagère pas, ils sont au nombre de deux. Alors, vous comprenez, le territoire de Oshwe, je crois que c'est le deuxième territoire le plus vaste et après celui de Bashkwasende dans la province orientale. Il est tout à fait aberrant de croire que c'est sont ces deux exploitants forestiers qui vont résoudre tous les problèmes des populations de Oshwe à quelque endroit qu'elles sont censées se retrouver. Mais j'aimerais plutôt préciser les choses en disant que il existe dans notre pays des lois, et en ce qui concerne l'exploitation forestière industrielle, il y a le code forestier. Et le code forestier organise les activités de l'exploitation forestière industrielle en République démocratique du Congo. Et le code forestier fixe les droits, les obligations, les devoirs des uns et des autres par rapport à cette activité. Et j'aimerais qu'on me dise si les exploitants forestiers membres de notre fédération ont manqué à leurs devoirs par rapport à cette loi qui organise ces activités-là. Ce que je sais, parce que je vois là où on veut en arriver, c'est-à-dire on parle toujours de ce fameux cahier des charges. Et quelque part, j'ai entendu même tout à l'heure que voilà, les sociétés travaillent, que leurs titres ne sont pas convertis. Je crois que c'est un faux débat. Là, il y a de l'amalgame. Ce pays a des lois et la République démocratique du Congo, par le biais du ministère de l'Intérieur, ne peut pas laisser travailler des opérateurs économiques qui ne sont pas en ordre vis-à-vis de la loi. Donc, je considère que c'est vrai, il y a un problème de sous-développement dans tout le pays qui ne concerne pas seulement le territoire de Oshwe, mais il y a le cahier des charges, il y a un espace juridique qui est bien organisé et tout le monde s'appelle et il y a déjà des réalisations qui sont en cours.
Alors, M. Mola, si je vous comprends, vous voulez dire que ces populations vous accusent à tort et vous dites même qu'il y a des réalisations. Quelles sont ces réalisations concrètement à Oshwe?
Ben, écoutez, la SODEFOR, pour ne parler que d'elle et puis de ITD, la SODEFOR existe depuis 1994. Eh bien, comme société, et elle exploite à Oshwe, je crois, ça fait bientôt 5-6 ans, si je ne m'abuse. Eh bien, quand vous arrivez à Oshwe, vous allez trouver déjà au niveau de camp de vie, au niveau de Oshwe, plus précisément de Mike 12 où nous exploitons, il y a des écoles. Ces enfants étudient.
Combien d'écoles?
Mais écoutez, vous n'allez pas me dire qu'il y a 100, 150, 200 écoles. J'ai dit qu'il y a des écoles à Oshwe. Il y a des écoles à Taketa. Au moment où je vous parle, on est en train de construire un grand centre de santé à Taketa. On est en train de construire un grand marché à Taketa. Et je peux aussi vous dire que c'est dans le groupement Mbili Nkamba où on a signé pour la toute première fois dans l'histoire de ce pays le premier cahier des charges conformément au code forestier. Donc, il y a des efforts qui sont en train d'être faits et il y a des services que la société est en train de rendre aux populations et que tout cela, on ne signale pas. Et une autre réalisation.
Très rapidement, je vous en prie.
Très rapidement, merci. Mais le service, le transport que la société, le service qu'elle est en train de rendre aux populations par le transport, mais ça, on ne le dit pas. Donc, je crois que quelque part, tous, nous sommes convaincus qu'il y a un gros effort à faire en ce qui concerne le développement et croire que c'est la seule la société et qui est là, qui doit résoudre tous les problèmes, je pense que c'est une façon très aberrante de voir les choses.
Merci. Ingénieur José Ilanga, vous êtes directeur coordonnateur des études et planification au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Vous venez de suivre Gabriel Mola, président de la Fédération des industriels du bois, qui pense qu'on les accuse un peu à tort. Certes, qu'il y a des efforts qui ont été fournis, qu'il reste encore des choses à faire. Comment vous analysez cette demande de la population d'Oshwe?
Merci. Je crois que je peux intervenir à ce stade en tant qu'administratif d'abord. Quand je dis en tant qu'administratif, je tiens seulement à rappeler que dans notre pays, depuis 2002, on a publié une loi portant code forestier. Et dans cette loi portant code forestier, il y a un certain nombre d'avantages qui sont réservé par la loi aux communautés locales.
Lesquelles, par exemple?
Je commencerai d'abord par citer les droits d'usage forestier. C'est-à-dire que les populations qui vivent à l'intérieur, à proximité du domaine forestier, peuvent récolter, prélever des ressources forestières en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels comme communautaires. Là, c'est une des dispositions. Je m'en vais aussi quitter une deuxième disposition qui veut que les populations vivent au fil des retombées de l'exploitation forestière, industrielle comme artisanale. Et par rapport à ça, je crois que M. Gabriel vient de mentionner les cahiers des charges, qui au fait, un document qui est rendu obligatoire par la loi, et plus précisément en son article 689, c'est-à-dire qu'aucun exploitant forestier ne peut, celui qui a vu son titre forestier jugé convertible, ne peut signer un contrat avec le gouvernement tant qu'il n'a pas négocié et signé un contrat, un cahier de charges avec les populations locales. Et c'est là que se situe le problème. Si à ce jour, nos populations ne sont pas encore rentrées, je dis bien rentrées convenablement dans leurs droits, tout simplement parce que jusqu'à ce jour, il a existé que ce qu'on peut appeler, ça un cahier de charges, mais nous appelons ça des ententes, des protocoles d'accord, formels ou informels entre les exploitants et les communautés locales. Et maintenant, le gouvernement, à travers la loi qui a été publiée, vient de finaliser et de rendre public les cahiers de charges, donc les modèles que l'exploitant forestier et une communauté locale riveraine doivent signer, pour que les uns et les autres rentrent dans leur compte, si on peut appeler ça comme ça. Et je m'en vais ici préciser une chose. Contrairement à ce que beaucoup des gens croient, le cahier des charges doit obligatoirement reprendre des infrastructures socio-économiques de base qui doit profiter à toutes les communautés ou à une communauté dans son entièreté et non dans sa totalité et non à un groupe de leaders comme c'est sur le cas par le passé. Bon. Le cahier, il va être signé parce que le modèle est là, parce qu'il y a un guide opérationnel de cahier de charges, de négociation de cahier de charges. Une fois que ces cahiers sont signés, ça va permettre aux sociétés qui ont vu leur titre forestier jugé convertible de signer un contrat avec le gouvernement. Et là, le gouvernement, représenté le ministère, par le ministère et les forêts dans ses attributions, va suivre maintenant les uns comme les autres des prêts pour dire qui aurait respecté ou non ses obligations.
Ingénieur,
permettez-moi de terminer par là. Il y a encore une autre innovation de taille. C'est juste qu'à un passé récent, donc avant 2002, les communautés locales ne pouvaient pas s'attendre à détenir une forêt en propre pour l'exploitation forestière. Et les côtes forestières apportent une innovation. C'est ce qu'on appelle les forêts de communauté locale, pour lesquelles les statuts sont maintenant en examen et très bientôt là, ils vont être vulgarisés pour qu'une communauté organisée puisse solliciter et obtenir, en plus des droits d'usage traditionnels, obtenir le droit d'exploiter le bois d'œuvre ainsi que les autres produits forestiers non liés. Donc, pour atterrir, et par rapport à la situation de Hochoué, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de craintes. Je crois que l'industriel vient de vous dire, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous, on s'est dit, ils l'ont fait selon un statut antérieur. Mais là, nous allons suivre selon un format, un modèle, qui est général et standard à tout, à vivre à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Quels sont les avantages auxquels les communautés doivent s'attendre? Merci. J'ai oublié encore.
Très rapidement, je veux dire,
c'est les populations doivent bénéficier à travers les rétrocessions de la redevance de superficie forestière, c'est-à-dire la taxe forestière qui paye les exploitants forestiers industriels comme artisanaux. Et dans ça, comme vous savez, le code forestier consacre 40% de rétrocession aux entités provinciales, si on peut appeler ça comme ça, donc 25% pour les provinces, et puis 25% pour les territoires d'origine du bois. Voilà encore une
fois, 15%.
Nous sommes au stade où tout ça là va être matérialisé, je crois. Devant un texte, il n'y aura pas beaucoup de problèmes pour qu'on puisse se retrouver tous.
Merci. René Ngongo, vous êtes conseiller Forêt Afrique et représentant légal de Greenpeace en RDC. Vous allez réagir au propos de Gabriel Molay, de l'ingénieur José Ilanga. L'ingénieur José Ilanga a fait mention au code forestier. Ce code forestier est-il appliqué en RDC?
Merci pour cette opportunité. Évidemment, le code a été promulgué en 2002. Aujourd'hui, nous sommes en 2010. Vous voyez, c'est pratiquement 8 ans. Malheureusement, force est de constater que le code n'est pas encore appliqué. Donc, il y a toute cette problématique par rapport à ce que dit la loi et la réalité sur le terrain. Il a été question, je prends juste le dernier point, la rétrocession de 40% des taxes de superficie. Ça n'a jamais été réalisé 8 ans après la mise en œuvre du code. Donc, on a vraiment de sérieux problèmes. Et c'est ce qui explique aussi toute cette misère qui est caractérisée dans les zones d'exploitation. Notre ami Mola qui parle des sensationnels, mais je ne sais pas si donner un tableau de la réalité sur le terrain. Moi, je reviens récemment du territoire du Sangui. J'étais dans les constructions autour de Kisangani. C'est le même tableau qu'on a observé à Hoche. C'est une pauvreté qui n'a pas de nom. Et les communautés ne tirent pas profit de cette exploitation. Voilà comment les communautés font une recommandation au pouvoir, à travers les messieurs de l'administration, pour qu'on ne continue pas à délivrer les permis de coupe pendant qu'on n'a pas signé les cahiers de charges. Parce que nous parlons de la loi, il faut que l'État respecte cette loi. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce qu'on a dit. Mais tout à l'heure, j'ai apprécié l'intervention du directeur José qui a parlé de droits d'usage. Aujourd'hui, il y a un problème réel parce que l'exploitation apporte parfois des conflits d'intérêts entre les communautés et l'exploitant. Je prends l'exemple des satellites, des arbres à chenilles qui sont comme une manne pour ces communautés qui n'ont plus accès à la protéine animale parce que le bruit des machines éloigne les gibiers. Aujourd'hui, avec l'exploitation des satellites, bien que les communautés gardent les droits d'usage, mais la ressource est la ressource.
Alors, vous venez de nous dire qu'il y a un grand fossé entre la loi et la réalité sur terrain. Ce flou, finalement, est-il entretenu ou c'est carrément une absence de volonté politique, René Ngongo?
Vous avez suivi les communautés qui disent, bon, finalement, nous, on ne sait pas qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. Nous voulons que, comme la loi dit, toute exploitation est assujettie à la signature d'un cahier de charges entre les communautés et l'exploitant, et sur base de ça, l'État peut signer un contrat avec l'exploitant. Aujourd'hui, il y a une exploitation qui continue après un processus de conversion. Parfois, on trouve des titres convertis et non convertis qui sont en train d'être exploités, et c'est un flou vraiment qui est sur le terrain. Et les communautés disent, nous voulons que l'État nous aide à mettre de l'ordre. C'est bien qu'il y ait des textes, et ça nous avons applaudi en son temps, parce qu'il y a eu beaucoup de textes qui ont été signés, beaucoup de mesures d'encadrement, mais sur le terrain, il y a encore un grand fossé entre ce qui est prévu et ce qui se fait. Et j'espère que le cri d'alarme de Hoche va arriver dans les oreilles de nos dirigeants, surtout qu'on parle de l'année sociale. Il faudrait que cette exploitation puisse apporter des dividendes. Nous voulons qu'on nous dise que c'est un modèle qui peut apporter le développement parce que tous les fondements de cette réforme, avec l'accompagnement des partenaires de développement comme la Banque mondiale, visaient la croissance économique, mais aussi la lutte contre la pauvreté. Alors, 8 ans après, beaucoup d'observateurs congolais, même étrangers, remarquent qu'on n'a pas fait les avancées qu'on attendait et qu'on écoute cette fois les cris des communautés.
Alors, en parlant d'écouter le cri de la communauté d'Oshue, il y a cet auditeur, Augustin Mwango de Kindo Maniema, qui dit « Je pense que la demande de cette population d'Oshue sera sans suite et jetée dans les tiroirs, car j'ai l'impression que l'État a abandonné la population. C'est pourquoi elle ne trouve presque pas son compte dans les initiatives qu'il entreprend, René Ngongo. »
Oui, ça serait dommage vraiment que ce soit des crises sans suite et c'est la société de faire des réunions auprès des autorités. Et là, nous sommes très heureux parce que le ministre a délégué son conseil juridique qui était sur place, qui a subi ce qui se passe et qui va lui faire certainement un compte-rendu fidèle de la situation sur le terrain. Et j'ai dit, ce cri, ce n'est pas seulement un cri qui vient de Hoche. Moi, je viens du fin fond de Yafunga, où j'ai vu des choses inadmissibles au moment où on parle de développement, on parle de millénaires, tout ça, mais là, on est en train de vivre comme dans les siècles passés.
Gabriel Mola, il y a Serge Camara de Bouillon, province orientale, qui dit « La demande de la population d'Oshue est fondée car un permis d'exploitation forestier est comme un pas de porte où la rigueur doit être de mise. » Francis Visseau, pardon, de Goma en Nord Kivu, je crois que les populations ne doivent pas souffrir sous prétexte de conserver la nature. Fortune de Béni en Nord Kivu également, les populations d'Oshue ont raison de s'inquiéter car les exploitants s'enrichissent au détriment des paisibles citoyens. Gabriel Mola.
Merci beaucoup. Je crois que il faut comprendre que dans toute société, il y a toujours une certaine division du travail. Le rôle du développement, de promouvoir le développement dans tous les états qui se respectent, eh bien, ce rôle revient à l'État, revient au gouvernement. Le rôle de l'opérateur économique, c'est d'essayer à travers ses activités de s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de l'État en ce qui concerne justement la fiscalité, et quitte à l'État de transformer cet apport de l'opérateur économique en possibilité de développement. Dans notre pays, on veut nous faire croire que l'opérateur économique doit être aussi un constructeur des hôpitaux, l'opérateur économique doit être aussi un fournisseur de services en matière de transport, l'opérateur économique doit être un constructeur de route, l'opérateur économique, donc il doit, si vous voulez, abandonner ses raisons d'existence pour maintenant se substituer à l'État. Alors, c'est ça le grand problème dans notre pays. Eh bien, moi je crois que aujourd'hui, dans notre pays, avec tout l'arsenal juridique que nous avons, notamment le code forestier et ses différentes mesures d'application, l'opérateur économique forestier, je voudrais parler ici de la Fédération des industriels du bois, s'acquitte loyalement de ses obligations vis-à-vis de l'État. Il faut faire la part des choses. Si tout le monde doit faire ce que tout le monde doit faire, donc c'est de l'arbitraire, c'est de l'anarchie. Donc, aux exploitants forestiers d'exploiter, c'est-à-dire d'exercer leurs activités, de s'acquitter de leurs obligations, quitte à l'État maintenant de matérialiser à partir des apports des activités d'exploitation forestière, de matérialiser sa volonté de développer le pays.
Gabriel Mola, donc, si je vous comprends en prenant votre dernière assertion, vous voulez dire que les retombées financières que produisent les sociétés exploitant le bois, l'État ne les fait pas parvenir à la population.
Mais vous avez suivi, même René Gongo l'a dit tout à l'heure, je crois que il y a un problème au niveau du fonctionnement même. Et ça ne relève pas de l'exploitant forestier. Combien de fois, René Gongo peut le témoigner, combien de fois nous n'avons cessé de crier, nous n'avons cessé de soutenir les populations pour qu'on mette en action, on active le processus de rétrocession. Ça, tout le monde le sait. Nous avons toujours soutenu et les administrations provinciales, et les populations, et les organisations de la société civile qui défendent les intérêts des populations pour que on arrive vraiment à matérialiser cette rétrocession. Il est ça que nous avons même en son temps demandé qu'on émette deux notes de paiement, c'est-à-dire une note pour le gouvernement central, qu'on payerait à Kinshasa, et une autre note pour le gouvernement provincial, et on irait payer à la province. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à l'exploitant forestier? Moi, je crois que quelque part, il faudra que tous ensemble, on puisse regarder dans la même direction et qu'on puisse faire entendre la cause de cette population. Nous avons des députés au Parlement. Mais pourquoi cette population ne saisissent pas en bonne et due forme leurs représentants au niveau du Parlement pour que ceux-ci, à leur tour, puissent interpeller soit le ministre des Finances, soit le ministre de l'Intérieur, afin que cette disposition constitutionnelle soit une réalité.
Merci. Ingénieur José Ilanga, vous venez de suivre Gabriel Mola. L'argent de l'exploitation du bois disparaît au niveau des gouvernants, au niveau de vos services.
Non, je ne veux pas utiliser l'expression disparition, parce que là, c'est trop fort.
Et les populations ne se retrouvent pas.
L'argent perçu par les services comme vous savez, le ministère de l'Environnement, c'est pas lui qui perçoit l'argent. Il y a des structures spécialisées du ministère des Finances, il y a la DGRAD, et il est question donc qu'on y pense à la profession. Je crois que les textes sont en train d'être harmonisés entre les structures étatiques, aussi bien au niveau central qu'au niveau des provinces. Il y a des ordonnances qui ont été prises par rapport à ça. Je crois que c'est un processus qui prend son cours normal et très bientôt là la rétrocession. Je peux au moins vous affirmer que ça sera quelque chose qui soit effectif. Vous savez, dans toute société, il faut quand même qu'il y ait des règles, qu'on sache ce qui doit percevoir quoi et à quel niveau. Et c'est malaisé que ça soit peut-être un des intervenants qui disent que bon, il faut, nous sommes prêts à donner autant à la province, autant à la capitale, ça c'est au niveau de la haute hiérarchie des finances du pays. Et à ma qualité d'administratif, je peux que saluer les efforts qui sont en cours pour rendre effectivement cette rétrocession effective et avec l'accompagnement de certains bailleurs de fonds qui sont connus comme l'Union européenne. Comme si vous ne savez pas, je vous informe que l'Union européenne finance un projet intitulé Programme d'assistance à la gouvernance. Et dans ce projet-là, dans le sous-volet forêt, ressources forestières, il y a des projets pilotes de rétrocession de la fiscalité ou de recettes forestières ou des taxes forestières aux provinces. Donc c'est quelque chose qui est déjà mis en marche et ça doit se faire conformément au texte existant et surtout avec beaucoup d'accompagnement. C'est un peu aussi sur la problématique du cahier des charges.
Ingénieur Ilanga,
oui.
Permettez que je vous arrête à ce niveau. Il y a la Banque mondiale qui, on le sait, a aussi financé le processus de conversion des titres fonciers. Qu'est-ce que ce processus a donné à ce jour?
Non, je crois, honnêtement, à moins que nous serons contredits à cette heure-ci précise, il n'y a pas un seul pays en Afrique centrale. Je dis bien, il n'y a pas un seul pays en Afrique. Je crois que c'est mal à toute région. Parce que nous faisons partie de la commission des forêts d'Afrique centrale et c'est pas nos collègues de Greenpeace ou les autres de la société civile qui vont nous contredire qu'il y ait un pays comme la RDC qui a fourni autant d'efforts pour assainir son secteur de l'exploitation forestière industrielle. Je m'en vais très rapidement vous dire que dans ce pays, nos forêts étaient concédées jusqu'à la hauteur de 45 millions d'hectares de forêts. Donc là, plus de la moitié des forêts de la RDC.
Ingénieur Ilanga.
Avec l'accompagnement de la Banque mondiale, je suis par là.
Ingénieur Ilanga.
Avec la Banque mondiale, nous avons 145 millions d'hectares de forêts et actuellement les forêts sous concession forestière n'atteignent même pas 10 millions d'hectares de forêts.
Ingénieur Ilanga.
Il y a le fonds d'assainissement et au moment où nous parlons, il y a que 65 titres sur les 156 qui ont été soumis à la conversion, qui seront jugés convertibles et les sociétés bénéficiaires vont signer les contrats de concession forestière.
Donc, vous pensez
qu'il y a des efforts qui sont faits, mais qui sont ignorés ou bien les uns et les autres ne veulent pas prendre ça en considération. Je suis tiré dans le dessus, comme dit, non, on a mis beaucoup de temps pour la mise en application du code forestier et surtout les cahiers des charges qui profitent aux communautés locales.
Merci.
Donc, la même société civile nous a accompagné dans l'élaboration de ces cahiers des charges. Pourquoi ils ne voulaient pas mon travail 48 heures sur 24 heures? Il y a un peu de choses. C'est pour dire, vous rassurez que rien n'est laissé pour compte. On avance et l'intérêt des communautés locales est pris en considération et nous ne voulons pas que ce soit pris en considération à travers des présents, mais à travers quelque chose de solide et de durable.
Merci. Ouais. René Ngongo, avant d'aborder la deuxième partie de cette émission, quelle est votre évaluation à vous du processus de conversion des titres forestiers?
Merci pour la question, mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux obligations des exploitants. tout à l'heure, j'étais surpris de voir notre ami Molaki au départ se référer à la loi. Et du coup, il dit que les écoles, les routes, ça c'est l'affaire de l'État. Mais c'est le code forestier. Il s'est référé à ce code qui donne ses obligations aux exploitants de faire ces infrastructures socio-économiques au profit des exploitants. Et au profit des communautés, j'allais dire. Donc, c'est quand même curieux que, du coup, ça devient l'affaire de l'État. Et même quand on parle du transport, tel que ça a été dit dans les codes, je ne pense pas que dans les codes, on demande aux exploitants de mettre des centaines de personnes sur des criminels. Je crois que c'est pas ça que l'État demande. L'État demande aux exploitants d'organiser du transport pour des communautés, pas les mettre sur les criminels. Et là, on a vu des accidents qu'on a déplorés, je crois que toujours, dans les Bandundu avec les naufrages sur les Maïndombe. Donc, il y a cet aspect, et je pense que on doit respecter la loi et se mettre au pas, surtout qu'ils sont en train de vouloir aller vers la certification où il sera question de voir quel est l'impact réel de l'exploitation dans les milieux. Et autrement, il n'y aura aucun certificat dans notre pays, ce serait vraiment dommage. Et en parlant de la fiscalité, moi j'aimerais savoir quelle a été la contribution de la FIB pour l'année 2009 sur le plan de fiscalité, parce que j'ai lu le président Mola qui a parlé sur référence qu'ils ont été exonérés pour 2009, et moi ça m'a surpris de voir que pendant que le gouvernement est en train de tout faire pour maximiser les recettes, en même temps il y a des exonérations, on est dépendant d'une contribution extérieure, et c'est pas ça qui peut résoudre les questions de notre pays. Mais pour revenir à votre question sur les processus de conversion, nous avons salué à son temps tous les efforts du gouvernement pour arriver à 65 qui représentaient environ 10 millions d'hectares. Mais j'aimerais, c'est la question que j'adresse à l'ingénieur José Ilanga, qu'en est-il de ces titres? Parce que nous avons applaudi et aujourd'hui, c'est comme si tous ces efforts que nous avons salués, malgré que de temps en temps nous avons déploré les manques de transparence qui a caractérisé le processus à un moment, aujourd'hui, on remet tout en cause. On apprend en cause, on apprend qu'il y a des notifications, après on apprend qu'il y a le conseil des ministres qui va se prononcer là-dessus. Et là, Monsieur José parle de 65 titres, mais en réalité, on apprend qu'il y a plus de 105 titres. C'est ce genre de processus qui remettent en cause tous les efforts et l'accompagnement de l'Union européenne, de la Banque mondiale. Et finalement, nous disons que, il y a, avant les processus de conversion, égal après les processus de conversion, parce que, quelle est la légalité des permis de coupe qui sont octroyés en ce moment, au moment où aucun titre n'est pas converti? Ça veut dire qu'il n'a pas respecté les mesures qui ont été prises, notamment l'arrêté de Ronan, si je ne me trompe pas.
Merci.
Et bien d'autres. Donc, il y a un problème de questionnement de la société civile par rapport à cette question, et nous avons été partie prenante, et nous avons applaudi les résultats des films. On a dit, on ne revient pas sur les incidents, mais c'est un résultat que nous tous, on a fait aujourd'hui. On a l'impression que l'État est en train de faire marche arrière, et ça va mettre en cause tout le processus qui a eu comme objectif d'assainir le système. Et la conclusion, c'est qu'on a seulement élagué les titres qui n'étaient pas en activité, mais tous les titres qui étaient en activité vont être convertis.
Merci René Ngongo. Deuxième partie de cette émission, comment les populations paysannes à travers le pays peuvent-elles bénéficier des retombées de l'exploitation forestière? On écoute les propositions faites par trois membres des ONG du secteur forestier évoluant dans les provinces du Bas-Congo, de l'Équateur et de la province orientale. Ils ont été joints au téléphone par Samuel Kachak.
John Limbani Mangulu Utimbandaka de la province de l'Équateur, président de l'ONG Gradefem. Il faut qu'on l'exploitant forestier puisse signer un cahier de charges en bonne et due forme avec le FEISA ou avec nos communautés locales. Mais de deux, il faut que les exploitants forestiers puissent installer des usines de transformation dans les sites d'exploitation. Et de trois, il faut une rétrocession de 40%, donc 25% pour la province et 15% pour le territoire ou la contrée qui a subi l'exploitation forestière. Les exploitants forestiers doivent signer un contrat social qu'ils doivent respecter et même en construisant les infrastructures socio-économiques des banques, comme les écoles, les hôpitaux, les routes.
Je suis pour la tête du Centre congolais pour la protection de la nature à partir de mandat dans la province de Bakongo. Pour le moment, nous constatons que les exploitants forestiers agricoles qui continuent à exploiter nos forêts, ils coupent le bois, ils s'en vont et il n'y a rien de retombé par rapport à la population, mais au contraire, les forêts sont mal exploitées et puis la population continue à couper dans la misère.
Cyril Adebou, depuis Kisangani, je suis de l'ONG Océan, Organisation concertée des écologistes amis de la nature. Il y a deux mécanismes qui sont prévus par la loi. Le premier mécanisme concerne le cahier des charges. Deuxième mécanisme, la rétrocession des taxes. On rétrocède 40% aux provinces et sur les 40%, le gouvernement provincial doit retirer normalement 25% et 15% doivent revenir au territoire concerné par l'exploitation.
Gabriel Mola-Motia, vous êtes président de la Fédération des industriels du bois. Vous venez de suivre ces experts du domaine forestier. Que faut-il à votre avis pour que les populations paysannes à travers le pays puissent bénéficier de retombées de l'exploitation forestière? Vous aviez déjà commencé à énoncer quelques solutions, notamment le respect du code forestier. Que faut-il de plus?
Ok, merci beaucoup. Mais permettez-moi de revenir un peu sur ce que René Ngongo vient de dire au sujet justement des infrastructures, de la réalisation des infrastructures de base en faveur des populations.
C'est une exigence
de la loi, mais je voudrais tout simplement lui faire comprendre et à travers lui, tout le mécanisme Greenpeace et consorts, que ça c'est dans le rôle régalien d'un État. Et comme nous sommes dans une situation de dysfonctionnement, et bien maintenant les opérateurs économiques, les privés se substituent à l'État, ce qui est tout à fait anormal. Et cette situation ne doit pas continuer. Dans un État qui se veut moderne, dans un État qui se respecte, je dis c'est anormal. Deuxièmement, il parle de la taxe de superficie pour l'année 2009. C'est très regrettable parce que là encore une fois de plus, c'est manqué un peu au sens de l'histoire. Tout le monde sait que le monde entier a été frappé et continue à subir les effets pervers de la crise financière internationale. Dans tous les pays du monde, s'il te plaît, dans tous les pays du monde, on a accordé, et même le code forestier le dit, en ce qui concerne les sociétés du domaine agro-pastoral. Mais il est tout à fait normal qu'un État puisse venir au secours des entreprises en temps de crise. Je crois que certains principes économiques ne reviennent pas. Mais concernant justement comment faire bénéficier les populations des retombées des activités de l'exploitation forestière. Je suis d'accord avec tous les trois intervenants de tout à l'heure en disant qu'il faut activer le mécanisme de rétrocession, ce qui est très important. Il faut aussi négocier le cahier de charges. Je crois que si mes souvenirs sont bons, dans les tout prochains jours, le ministre de l'Environnement ne manquera pas de sanctionner par voie d'arrêté, si vous voulez, le guide opérationnel sur les négociations de la clause sociale du cahier de charges. Et ça, c'est très...
Merci. Ingénieur José Ilanga, vous venez de suivre les différentes propositions, mais quels sont les moyens que le ministère de l'Environnement met en place pour permettre à ses représentations en province de contrôler l'application du code forestier?
Merci pour la question. J'ai demandé à vous rassurer que le gouvernement de la République représenté par le ministère de l'Environnement vient de signer un contrat avec une firme internationale qui a fait ses preuves à travers la sous-région de l'Afrique. La firme s'appelle Société Générale de Surveillance pour essayer de lutter efficacement avec des moyens sophistiquée, moderne, par télédétection, par télé, par satellite et tout le reste, pour essayer de traquer au maximum l'exploitation forestière illégale et surtout les exploitations frauduleuses. Comme vous savez, nous avons des coins comme l'est du pays à travers Mambasa, à l'ouest c'est Boma, le bois qui va à Cabinda, vous avez à l'équateur le bois qui va à Douala via Bangui. Alors voilà, donc c'est déjà un grand pas, et ça c'est avec l'accompagnement de nos bailleurs de fonds, la Banque mondiale. Et il y a des efforts aussi dans le sens de la régionalisation d'une des grandes directions du ministère, la direction du contrôle et vérification interne, pour accompagner ce renforcement de capacité dans le contrôle. Et sans compter que nous avons, contrairement à ce que croit la société civile, sur tous les ONG comme Greenpeace et les autres, qui ne citaient que Greenpeace et Global Witness, donc nous avons les pays bien de signer un contrat avec pour faire venir un observateur international, quelqu'un qui viendra constater l'illégalité ou la légalité de l'exploitation forestière pour développer la gouvernance forestière. Donc en fait, ce sont là les efforts qui sont mis en place pour essayer de juguler l'exploitation forestière illégale et surtout l'exportation frauduleuse du bois congolais et par temps pour maximiser les recettes fiscales et non fiscales issues de l'exploitation forestière et de là, comme je disais tout à l'heure, à travers la rétrocession, toutes les parties trouvent leur compte dans les provinces et gouvernements centrales. Voilà un peu les efforts qui sont mis en cause, qui sont mis en place. Et nous sommes de plus en plus confiants, contrairement à ce que quoi.
Merci, ingénieur Kibanga.
Certains de nos partenaires de la société civile.
René Ngongo, quelles sont vos propositions? Parce qu'on sait que ce secteur est aussi gangréné par la corruption.
Oui, en fait, on salue toutes ces initiatives. Nous voulons vraiment que cela se matérialise. Donc, on n'est pas pessimiste comme l'actuel. Souligner les directives humaines. On voudrait que cela soit réalisé sur le terrain, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une décentralisation. Le code prévoit qu'il y ait des conseils consultatifs au niveau national et au niveau provincial. Aujourd'hui, ces conseils ne sont pas encore mis en place. On voudrait qu'il y ait une décentralisation, qu'on s'approche plus de ces communautés, qu'il y ait beaucoup plus de dialogue et qu'on écoute ces communautés parce qu'elles ont des propositions concrètes pour leur développement. Je crois que les forums de Hoche a montré toute la mine d'informations que nous pouvons tirer de la communauté. Aujourd'hui, on parle des raids, des mécanismes de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation. C'est une piste qu'on ne devra pas négliger pour pouvoir donner des alternatives à ces communautés.
Merci.
Et tout à l'heure, on a parlé des forêts des communautés locales. Il faudrait qu'on arrive à accélérer le processus qui est vers la fin de sa mise en œuvre pour que les communautés puissent accéder à leurs forêts, qu'on puisse les accompagner. Évidemment, cela nécessite un zonage qui soit national et participatif où on va mettre en défaut des zones pour la conservation, des zones pour l'exploitation industrielle, mais aussi des zones appropriées pour les communautés, de manière que celles-ci puissent tirer profit de leurs forêts.
Merci, M. Ngongo. On va terminer avec des réactions des auditeurs. Freddy Abougitou de Kinshasa. Je pense que le manque d'une vision politique générale d'avenir par le régime en place a conduit toujours à un mauvais diagnostic du problème posé, à un résultat erroné. C'est ce qui justifie les mauvaises conditions de vie sociale et économique des Congolais. Ignace de Colusio Katanga. Est-il correct que l'exploitation des richesses ne profite pas aux populations locales? Il est temps que les Congolais cessent d'être des mendiants assis sur un tapis d'or. Venant à Wabilo de Matadioba, Congo, je crois que Kinshasa a toujours la main mise sur toutes les productions forestières des provinces. Ce cri d'alarme de la population d'Oshui devrait être celui de toutes les provinces lancé vers le gouvernement central. Un mot à chacun en guise de conclusion. Gabriel Mola, un mot, je vous en prie, pour conclure.
Beaucoup, je remercie la radio Okapi qui me fait donner l'occasion de nous exprimer, de débattre sur des questions relatives à notre secteur.
Merci.
Mais je voudrais rassurer les uns et les autres que tout le monde est conscient. Nous.
Voilà, nous avons perdu Gabriel Mola. Ingénieur Ilanga, un mot pour conclure.
Mais en conclusion, écoutez, moi je ne peux que vous féliciter pour ce genre d'initiatives qui permettent aux uns et aux autres de s'exprimer, ça c'est un, et puis de mettre sur la place publique les réalisations. Mais j'ai bien conscience en tant qu'associatif, c'est beaucoup plus...
Permettez que je vous coupe, René Ngongo, un mot pour conclure.
Un mot de remerciement et une sollicitation à l'endroit de l'autorité qui gère le secteur, ce qui est vraiment un cadre...
Merci Monsieur Ngongo, merci à Félix Pella, Kevin Kouté, Sylvain Matoundou et Samuel Kachak. Bonne suite au programme sur Radio Okapi et merci de nous avoir suivis. We'll be right back.